Dum dum da dum, dum dum da dum.
Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour. Le mois dernier, nous évoquions les pistes cyclables dans notre département et notamment ce qui a été baptisé chez nous, la Véloire. On parlera aujourd'hui des projets de rattachement de ce parcours balisé pour les vélos jusqu'en Haute-Loire pour faire la jonction avec la Via Rhôna. Et justement, en circulant dans le département, vous avez sûrement eu l'occasion, peut-être sans le savoir d'ailleurs, de rencontrer des agents du département qui œuvrent pour le service des Ligériens. C'est le cas de Patrick Charles, qui fait partie des nombreux agents départementaux mis à l'honneur dans une récente campagne d'affichage. Hervé Reynaud sera ensuite notre invité pour expliquer le détail du budget départemental 2021 et l'on terminera notre émission de ce mois d'avril par une rencontre avec Florent Mercier, cofondateur de Pizza Cozy, une société devenue en quelques années une marque nationale.
Loire Mag, le dossier.
L'itinéraire Véloire vous invite à découvrir à vélo la partie amont du dernier fleuve sauvage d'Europe. Aujourd'hui, ce parcours est aménagé de Montrond-les-Bains à Parel-Monial. Mais aujourd'hui, on en est à l'étape suivante. Alain Laurendon, premier vice-président du département.
La Véloire, c'est une colonne vertébrale. Et ce qu'on aimerait, c'est permettre aux gens qui traversent notre département pour la découverte, ou même aux gens du département qui ont envie de traverser leur département, parce que l'avantage du vélo, c'est qu'on peut faire du tourisme de 3-4 jours sur son territoire sans prendre sa voiture et découvrir des coins merveilleux. Donc, ce que l'on travaille avec les collectivités, on a déjà mis ça en place dans le Rouennais et sur la plaine du Forêt, c'est des boucles locales qui se connectent sur notre voie, notre artère principale, et qui puissent permettre la découverte du pays ou de lieux remarquables. Je pense à la bâtie d'Urfey pour un patrimoine départemental. Si on a un circuit qui vient de la Véloire et qui se décroche, ça permet à des gens qui sont en traversée et découverte de la région de passer une nuit ou deux sur notre territoire. Et c'est pour ceci qu'on travaille aussi sur la mise en place de l'accueil vélo dans le cadre d'hébergement sur le territoire.
Donc tout un pack, si je peux dire, qui se prépare ou qui continue de se travailler sur les années à venir. Justement, il y a eu le plan 2013-2020. Là, on s'inscrit dans un nouveau schéma.
Le nouveau schéma n'est pas sorti puisqu'on est en train de l'élaborer. La piste, c'est de faire aimer le vélo aux citoyens et rassurer les gens. Donc, il y a une question de sécurité, d'amour du vélo et puis une question de santé publique et puis environnementale.
Et aujourd'hui, la Véloire poursuit sa mise en place jusqu'en Haute-Loire.
Là, on est en phase de finaliser le projet, c'est-à-dire que la suite de Montrond-les-Bains, c'est suivre la Loire, donc c'est jusqu'à Saint-Just-à-Rambert. Et à partir de Saint-Just-à-Rambert, l'objectif, c'est de rejoindre Firminy pour, dans le cadre de notre schéma national, rejoindre la Haute-Loire. La Haute-Loire a travaillé déjà sur une partie de sa voie verte et aujourd'hui, la Haute-Loire, entre autres, arrive jusqu'au col du Tracol pour pouvoir créer un lien avec la Via Rhôna par le Pila. Ça fait partie, deuxième partie du projet pour la Loire, puisque nous accompagnons la communauté de communes du Pila pour relier le Tracol à Bourg-Argental et ensuite rejoindre la Via Rhôna, qui est un objectif national auquel nous participons. Ça fera partie de ces 150 km qui traversent le département, qui se connecteront avec les réalisations qui seront faites dans le cadre des autres territoires. Puisqu'aujourd'hui, chaque collectivité a son plan de déplacement cyclable. Saint-Étienne Métropole a mis en place un schéma. Toutes les collectivités de la plaine, que ce soit Loire-Forêt ou Forêt-Est, a aussi son plan de déplacement cyclable. Et nous travaillons avec ces collectivités pour nous connecter. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur le territoire. Chacun doit travailler par rapport à ses compétences avec des problématiques différentes qui sont plus urbaines. Mais on doit aujourd'hui se connecter pour que le cycliste ne voit pas la différence lorsqu'il change de territoire et surtout qu'il reste en sécurité.
Alain Laurendon, vous représentez le département de la Loire au sein d'un groupe national qui s'intitule Vélo et Territoire. De quoi s'agit-il ?
Vélo et Territoire, c'est le regroupement au départ de départements, maintenant avec des régions et des communautés de communes, une association nationale qui est en charge de l'organisation du véloroute et des voies vertes sur la France et la mise en place des voies européennes. Donc aujourd'hui, cette association, avec d'autres associations autour, mais qui représente les collectivités, a mis un plan qui se déroule jusqu'en 2030, avec l'objectif de créer 25 587 km de voies vertes et de véloroutes, c'est-à-dire de balisage, une carte qui permet de se balader dans toute la France, de faire le tour de la France. Et dans ces 25 000 km, à ce jour, il y a 18 800 km de réalisés. 18 800 km dont la Véloire fait partie. C'est pour ceci qu'on a l'objectif de rejoindre la Haute-Loire pour que cette Véloire s'intègre totalement dans le schéma national qui est relié au schéma européen aussi. Parce que le schéma européen, c'est Parelmonial. Parelmonial, c'est l'Eurovélo 6 qui démarre de Nantes, qui suit la Loire, qui ensuite bascule sur le côté allemand et prend la suite avec le Danube pour traverser toute l'Europe. C'est la plus grande voie européenne que nous avons. Alors l'objectif de 2030, de ces 28 000 km, c'est que la France devienne la première destination cyclable du monde.
Loire Mag, visage de la Loire.
Continuons à parcourir le département. Si vous circulez dans la Loire, vous allez sûrement croiser à un moment ou à un autre des zones de travaux. Et si vous êtes sur une route départementale, vous apercevrez peut-être sur la vitre arrière des camionnettes jaunes la nouvelle campagne de sensibilisation du département de la Loire. Vous pourrez lire un message « 320 agents à vos côtés, protégez-les », accompagné du beau sourire de Patrick Charles, agent d'exploitation du centre de Chalmazel. Dans cette émission Loire Mag, le podcast sur RCF, c'est lui, notre visage de la Loire, de ce mois d'avril. Pour lui, tout a commencé par un choix professionnel pour les travaux publics. Il répond à Emmaël.
Moi, j'ai commencé dans les travaux publics déjà, dans les années, on va dire, 85-86. J'ai fait 15 ans d'entrée publique et puis un jour, j'ai dit, on travaillait beaucoup pour à l'époque, c'était le département, on travaillait beaucoup pour eux, donc j'ai voulu franchir le pas. Donc j'ai passé un concours et je suis rentré au parc routier en 2000. Et après, je suis rentré à ce qu'on appelait à l'époque les subdivisions, c'était la DDE, en 2004 à Montbrison et en 2010 à Chalmazel.
Vous aimez l'aspect mécanique de votre métier?
Oui, ça c'est intéressant, j'aime bien moi. C'est ce qui me plaît, c'est de travailler avec des pelles, des tractopelles, des choses comme ça. On a les camions, si, c'est intéressant. Voilà.
Vous êtes amené à travailler avec différents engins tout au long de l'année en fonction des saisons?
Oui, différents engins et puis différentes. On travaille beaucoup aussi avec des boîtes privées qui eux viennent avec leurs engins, quand on n'a pas d'engins, c'est eux qui viennent. Alors donc on les accompagne, on leur explique ce qu'il faut faire, ce qu'on veut, et puis on les aide.
Expliquez-nous un peu en quoi consiste votre métier.
Si vous voulez, on a l'hiver, on fait beaucoup de déneigement, de salage. Et on a l'été, on fait l'entretien des routes, fauchage, bouchage des trous, entretien courant des chaussées. Quoi.
Votre mission, c'est que les routes départementales soient en bon état pour que les gens puissent circuler.
Oui, qu'il n'y ait pas de danger pour que les gens puissent circuler en toute sécurité. La route, tout ce qui va avec la route, la signalisation, les choses que les gens ne voient pas, les murs qui soutiennent les routes, les ponts. Et là, depuis quelques années, avec le Conseil Général, on fait un entretien un peu du domaine du Conseil Général. Comme moi, je suis à Chalmazel, il y a une loge qui s'est faite, on va faire l'entretien du tour de la loge. Notre métier a évolué sur ce côté-là maintenant.
On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière tout ça?
Non, on ne se rend pas compte. Si vous voulez, nous, à Chalmazel, on est un tout petit centre, on a plus de 100 km de route à entretenir. Et on est 6. Au fur et à mesure, on arrive à faire ce qu'on a à faire quoi, sur une année. Après, s'il y a un gros hiver, il y a beaucoup de dégâts l'été, parce que la neige et le verglas abîment les routes. Et ça suit, quoi, après.
Cette année a été une année comment?
Pour cet hiver, pour nous, en haut, ça a été pas une grosse année, quoi. Nous, ce qui nous embête le plus l'hiver, c'est le vent. 10, 15 cm de neige, 20 cm de neige, on sait se débrouiller avec. Mais dès que vous avez du vent, là, c'est plus compliqué parce que vous passez, derrière c'est bouché, vous repassez, c'est rebouché, c'est plus compliqué.
Les congères rebouchent vos routes.
Oui, voilà. Encore qu'on est équipé, nous, on a une grosse fraise qui nous envoie la neige assez loin. On a quand même beaucoup de matériel pour travailler, du bon matériel.
Oui, parce qu'en tant qu'agent des routes, vous êtes sur un terrain particulièrement inhospitalier, Chalmazel. C'est quand même haut, c'est pas tout le monde qui a ces routes-là à entretenir.
Oui, là. C'est pour ça que suivant le secteur que vous avez, si vous êtes en pleine, l'hiver, vous ne faites pas les mêmes travaux qu'à Chalmazel. Parce qu'à Chalmazel, les endroits, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si la neige, vous ne pouvez pas aller faire des ouvrages d'air, nettoyer les ouvrages d'air, tout ça. Et si la neige, bon, vous déneigez, c'est pas le même travail. Tout dépend où on est. C'est le même travail, mais pas au même degré. Quoi.
Mais vous devez affronter le froid là-haut.
Ah, bah oui, le froid. Oui. Il ne faut pas craindre le froid, oui. Oui, parce que quand vous êtes au col du Béal, ça arrive de tomber en panne ou des choses comme ça. On s'équipe. On a des affaires, après c'est une habitude.
Alors vous avez accepté de nouveau, parce que vous étiez déjà sur la campagne de communication précédente, d'apparaître sur les affiches du département mettant en valeur les agents. Pourquoi avoir accepté?
Ça fait longtemps que je fais de la sécurité, donc quand on m'a dit que c'était pour la sécurité des agents, j'ai accepté tout de suite, quoi, parce qu'on a quand même un métier un peu à risque. Et c'est pour ça que j'ai accepté que mon portrait apparaisse, pour pouvoir sensibiliser les gens à notre métier. Quoi. C'est pas pour me faire de la pub. Dès que vous êtes sur une route où il y a des voitures qui passent, il y a un risque. C'est sûr qu'il est peut-être moins élevé à Chalmazel que quand vous faites des routes comme Montbrison-Moron, mais il y a un risque. On essaie de tout faire pour que le risque soit le plus petit possible. Quoi.
Et vous avez besoin pour cela que les conducteurs fassent attention quand ils approchent des travaux.
Ah oui. Dès qu'on voit des panneaux de travaux, qu'on voit des panneaux de signalisation, c'est pas pour les embêter, c'est pour améliorer leurs conditions pour rouler. Il faut faire attention, quoi.
Il y a des accidents dans la Loire ?
Oui.
Qui impliquent des agents comme vous ?
Oui, je vous dis, il y en a eu un il y a 15 jours sur l'autoroute, là. Alors, c'est pas nous, c'est la dire. Mais bon, c'était nos anciens collègues, donc ils font le même métier que nous. Il y a des collègues, il y a 2 ans, ils ont eu un grave accident entre Montrond et Montbrison. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incidents qui ne sont pas recensés. Il y a des incidents, des voitures qui vous frôlent, autre chose. Ce n'est pas des accidents, mais c'est des incidents, mais qui pourraient devenir des graves accidents, quoi.
Vous, il vous arrive d'avoir peur ?
Oui. Alors, je veux dire, moi, j'ai un peu l'expérience maintenant, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire pour éviter. Mais il nous arrive vraiment d'avoir peur, oui. Ouais, ouais.
Des voitures qui vous frôlent, des choses comme ça ?
Oui, comme il disait, quand vous posez un cône sur le bord de la route, vous posez le prochain, et quand vous rendez compte que celui derrière vous, il est parti parce que la voiture est passée trop près, vous dites, si, ça peut être moi, quoi.
Et vous aimez votre métier ?
Oui, oui, j'aime bien mon métier. Comme je dis, ça fait 36 ans que je fais ça, donc je travaille sur les routes. J'avais 20 ans au département et 16 ans dans le privé, donc si je n'aimais pas ça, j'aurais changé de métier.
Vous le conseillez, ce métier ?
Oui, aux personnes qui n'ont pas peur d'avoir froid, d'être dehors, sous la pluie, des jours et ben, dans la boue, dans la neige, oui. C'est les métiers du TP, du bâtiment, c'est les métiers extérieurs, donc il faut aimer être dehors, quoi.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Le budget du département de la Loire pour 2021 a été voté il y a un mois et demi. Près de 70% de ce budget est consacré à l'action sociale auprès des Ligériens. Les détails avec Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond et vice-président en charge, entre autres responsabilités, des finances et de l'évaluation des politiques publiques. Il est au micro de Philippe Loi.
Il y a les salaires, hein, c'est une part importante, mais il y a aussi toutes les aides que l'on apporte. Vous savez qu'au niveau du département de la Loire, il y a une grosse part de social. 67% du budget est consacré au social, c'est-à-dire l'APA pour nos personnes âgées qui sont à domicile, toutes les personnes handicapées avec un certain nombre d'allocations, et puis également le RSA qui passe par le département pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui sont démunies. Alors les investissements, c'est tous les travaux, hein, que ce soit de voirie ou alors l'aide aux communes. Le département se distingue par rapport à d'autres départements au niveau de l'effort qui est fait pour les travaux dans les différentes communes et toutes les actions évidemment de rénovation de collèges, etc.
Alors chaque année, le budget se fabrique, c'est un peu comme un puzzle.
Eh bien, on regarde d'abord nos recettes, on essaye ensuite de positionner des dépenses en face, car la Chambre régionale des comptes, qui vient d'émettre un avis sur la gestion du département depuis 2013, c'est-à-dire depuis que je m'occupe des finances de ce département, a loué la prudence du département en la matière, mais aussi son volontarisme, a mis en avant toute la fiabilité des comptes et également la bonne tenue des comptes au niveau du département. Donc on essaye vraiment d'avoir une gestion responsable, on dirait en bon père de famille. Antoine Pinet a présidé le département à une certaine époque, mais évidemment essayer aussi d'innover et d'être volontariste. Cette année, nous avons un très haut niveau d'investissement, comme jamais. Donc on a vraiment essayé de faire des économies en interne pour pouvoir rendre cet argent au plus grand nombre en termes de fonctionnement et aussi d'investissement.
Un mot, le montant du budget du département de la Loire ?
C'est 830 millions d'euros. Et pour cette année, nous avons un niveau d'investissement qui augmente de 26% avec 111 millions d'euros d'investissement pour le budget 2021, le budget prévisionnel. Et c'est quelque chose qui se prépare très longtemps à l'avance pour pouvoir ensuite avoir ce projet collectif.
Hervé Reynaud, comment on prépare justement un budget ?
On essaye vraiment d'être là aussi responsable, d'autant plus que cette année, nous avons une réforme de la fiscalité qui fait que le département qui avait une taxe foncière qui est transmise aux communes, qui elles n'ont plus la taxe d'habitation, eh bien nous avons maintenant une fraction de TVA qui a remplacé cela. Donc nous avons beaucoup de fiscalité indirecte et donc nous n'avons plus de moyens de jouer sur les taux d'imposition. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc ça c'est une première chose. Mais nous souhaitons aussi que le département avance. Donc nous faisons beaucoup d'efforts pour aller au maximum de nos possibilités. Par contre ça se prépare. Le budget nous l'avons voté en février. Dès le mois de juillet, j'ai adressé avec le président du département une lettre de cadrage à l'ensemble des élus en leur disant vous avez une certaine marge de manœuvre. Et puis ensuite, nous avons des arbitrages budgétaires autour d'octobre-novembre, avec l'ensemble des élus qui font des propositions avec leurs services. Et ensuite, des orientations budgétaires au mois de décembre. Et deux mois après, c'est la loi, au maximum, nous avons donc le budget. Donc vous voyez que c'est un travail de longue haleine dans le cadre du calendrier budgétaire.
Hervé Renaud, vous l'avez dit, il y a des arbitrages. Donc il y a des élus qui sont contents, d'autres qui sont un peu plus déçus parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. C'est la règle du jeu.
C'est la règle du jeu. Nous avons des orientations politiques que nous partageons avec la majorité départementale. Cette année, le département souhaite s'orienter dans deux directions. Les solidarités humaines, car nous avons notre rôle à jouer avec un certain nombre de publics qui ont besoin de nous. Et puis des solidarités territoriales aussi, avec de nombreux investissements auprès des intercommunalités et des communes pour les aider à réaliser leurs projets d'aménagement. Donc ce sont les deux grandes orientations. Un département protecteur et également un département qui, au niveau de l'économie, cherche à générer des projets parce que derrière, c'est de l'économie locale, c'est de l'emploi et c'est une dynamique de croissance.
Les chiffres, vous aimez ça ?
Ben moi, je suis plutôt un littéraire, pour tout vous dire. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une gestion comptable responsable, rigoureuse, et j'ai de très bons services à mes côtés, avec une directrice générale adjointe, Jeanne Bertrand, avec qui j'aime beaucoup travailler, et Karine Brun, ma directrice des finances. Je les salue à cette occasion. Et les chiffres, surtout, il faut le décliner en projet, il faut leur donner du sens. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette matière, ça nous permet d'être très transversal, de travailler en équipe avec mes collègues, dans le cadre d'une feuille de route également donné par le président Ziegler. Et donc voilà, à partir de la comptabilité, on essaye surtout de générer des projets.
Merci beaucoup en tout cas Hervé Renaud, nous avoir présenté le budget du département de la Loire. On rappelle le montant ?
830 millions d'euros et un budget vraiment orienté vers les solidarités humaines et territoriales, c'est-à-dire vis-à-vis des habitants des différentes communes et vis-à-vis de ceux qui ont besoin de nous tout au long de la journée et tout au long de la vie. Merci à vous.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Deux Stéphanois à la tête d'un empire de la pizza. C'est l'histoire de Florent et David, deux amis d'enfance qui ont lancé en 2010 leur première pizzeria. Le début d'une grande aventure qui va les mener à la fin de l'année à être à la tête d'une franchise de 50 magasins. Florent Mercier est l'un des deux cofondateurs de Pizza Cozy. Il répond aux questions d'Emmaël.
On n'a rien inventé, on a juste pris les béabas du métier de commerçant. Pour nous, un vrai commerçant, ça a des vraies valeurs. Déjà, c'est faire plaisir à ses clients, travailler avec des bons produits et des produits qu'on ne va pas chercher au fin fond de l'Europe non plus. C'était avoir un bel emplacement avec un accueil très chaleureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Pizza Cozy, parce qu'on veut qu'il y ait vraiment cet accueil qui soit chaleureux, qu'on s'y sente bien. Un magasin bien placé, des gens souriants, un joli design, des bons produits, servi en temps et en heure. Et tout ça a fait qu'avec une belle communication derrière et un bon marketing, on arrive à monter des points de vente et à se différencier de ce qui se fait. Comment on essaye vraiment de pousser la différence? On a été la première enseigne en France à travailler sur du 100% frais. On a zéro produit surgelé, mis à part les glaces. Demain, on veut être la première à travailler sur du produit 100% français. Pour l'instant, on a des difficultés parce que si on veut une très bonne mozzarella, pour l'instant, on est obligé encore de se servir à Naples parce que les Français ont pas mal de bonnes choses, mais il y a deux, trois choses qui sont quand même compliquées qu'on n'arrive pas à trouver.
Oui, le bouffalone, c'est un peu plus rare en France.
Exactement. On a amené un nouveau volet à notre métier, c'est-à-dire qu'avant, on passait par des fournisseurs qui nous distribuaient dans les points de vente les ingrédients. On a créé une plateforme de 2500 m² où là, carrément, en fait, on va chercher notre mozzarella à Naples, on va chercher nos tomates en Provence et on palettise 100% des produits dans nos nouveaux locaux et on redistribue à nos franchisés. Ça veut dire qu'on aura des produits exclusifs pour nos franchisés, mais on aura en plus la main mise sur vraiment tout le trajet de A à Z.
Vous allez avoir une sorte de mini marché de Rungis privé.
C'est ça. Alors c'est déjà effectif parce que sur la plateforme de 2500 m² qu'on a à la Talaudière, la partie logistique et transport fonctionne depuis 3 semaines. Donc ça fonctionne bien. C'est une évolution. On a des poids lourds, on a des chauffeurs. C'est différent. C'est encore une fois une évolution dans le métier. Mais c'est bien parce que tout est internalisé. Ça rassure aussi les personnes qui rentrent chez Pizza Cozy, les futurs franchisés. C'est bien. Et toute la partie à côté, petite partie de 500 m², là en fait on va agrandir nos bureaux de développement. Pour l'instant on est 40, on sait que demain on a la capacité de doubler le nombre de personnes.
Oui, l'aventure Pizza Cozy est loin d'être terminée.
On vient d'ouvrir le 36e magasin à Lyon 6, on finira à 50 points de vente à la fin de l'année.
Répartis sur quelle géographie ?
Alors pour l'instant on est sur la France et les Dom-Tom, on vient d'ouvrir un deuxième magasin à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Sur cette fin d'année il y aura un troisième magasin sur l'île de la Réunion à Saint-Pierre. On reste sur le territoire français, mais on va en ouvrir 3 à Paris au mois de juillet. On va ouvrir Strasbourg, on ouvre Bordeaux aussi.
Vous avez géré tout ce réseau depuis la Talaudière ?
Exactement. En fait, tout va partir de la Talaudière. Nos antipastis ainsi que nos autres produits, en ultra frais, on a des DLC à peu près de 21 jours. C'est-à-dire qu'un franchisé commande le lundi, il est livré le mercredi. Et jusqu'au mercredi suivant, il a en fait de la cam pour toute la semaine.
Et en termes de personnel, vous-même et j'imagine d'autres personnes de l'entreprise ont dû apprendre toute une série de métiers au fur et à mesure de votre développement.
Exactement, en bas de manière. On avait besoin des métiers autour de la communication. Donc Julien Licata, qui est, comme je vous disais, notre directeur marketing communication, a staffé une équipe en fait. Jonathan s'occupe essentiellement du développement, donc il a pris des personnes de l'école de la franchise. On a pris pas mal aussi de cours avec notre consultant pour connaître comment fonctionnait le développement. Mehdi Douemri, qui nous a rejoint sur innovation et qualité produit, qui est champion d'Europe et champion du monde de la pizza. Donc c'est une bonne aide aussi. On a pas mal de métiers, des métiers un peu de l'ombre, comme nos cuisiniers qui font les antipastis. On a nos métiers RH, directeur administratif et financier. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes. Ce qui est bien, c'est qu'on est une boîte jeune. La moyenne d'âge, ça doit être 27 ans. Et encore, c'est peut-être un peu élevé. Mais tout le monde essaye de monter en compétences. On est hyper attentif à l'ascenseur social, nous aussi. Donc, on veut vraiment que nos employés...
aient la possibilité de progresser.
Voilà, exactement. Et c'est très important pour nous. On avait commencé sur notre pizzeria. Jérémy, c'était notre premier livreur à Terre-Noire. Alors d'aujourd'hui, il est multifranchisé, il gère 16 personnes, il a son compte. Il est très heureux. Là, ça fait partie de notre ADN, de faire évoluer les employés au maximum.
Et comment vous faites alors pour... avoir un œil ou en tout cas développer une franchise à La Réunion.
Développer une franchise à La Réunion, en fait, c'est comme développer une franchise en Bretagne ou développer une franchise à Lyon. Il faut juste avoir le bon profil. Si on a le bon profil et derrière, après, on l'anime avec nos animateurs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais la sélection est très, très importante au début. On dit qu'avec un franchisé, on est marié 12 ans parce qu'il renouvelle en moyenne 2 fois son contrat de franchise. Donc... faut pas se tromper. Et on s'est pas trompé parce que à La Réunion, sur 2019 et 2020, c'était le plus gros magasin du réseau.
Loire Mag, évadez-vous ici.
Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, on va partir se promener cette fois, bien sûr, toujours dans le département, mais particulièrement dans le Pilat, grâce à une photo que vous avez peut-être bien vue circuler sur les réseaux. Une photo prise cet hiver depuis le Cré de la Perdrix à la Jasserie et qui vraiment a remporté un succès phénoménal puisqu'il y a eu près de 1500 likes, comme l'on dit sur Facebook, et près de 20 000 impressions sur la page LinkedIn du département. Donc, les gens ont gardé cette photo dans leur bureau, notamment, probablement. Et donc, c'est le Mont Blanc qui est visible au loin. Ça, on le sait, nous qui habitons dans le département, lorsqu'on monte dans le Pilat, on peut le voir. Mais il a été découvert par le reporter photographe Frédéric Chambert, pour qui ça a été une nouveauté, ce spot photographique. Il le dit lui-même, installé un long téléobjectif sur son boîtier et choisi un cadrage qui incluait l'émetteur TDF du Mont Pilat, du Cré de l'Oyon, donc pour situer le lieu et amplifier ce qu'il appelle la beauté du plus haut sommet de l'Europe. Alors, en lui reconnaissant, parce qu'évidemment, il y a une magnifique photo sur les Alpes, mais du coup, c'est aussi une façon de faire connaître mieux les beautés de notre département. Merci à lui. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, le mois prochain, au mois de mai. Au revoir.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.